L'avant, tant de réveils, de promesses, de disponibilité. Article du site de l'abbaye de Maïlis, publié par le frère Olivetto en décembre 2018. abbayedemaïlis.org. Le cycle liturgique nous fait revivre dans son actualité le mystère du Christ. Pendant longtemps, il n'y eut qu'une fête principale, centre de l'année, Pâques. Elle fut précédée d'un temps de préparation, une quarantaine, le carême. Puis elle fut suivie d'une cinquantaine, suivant l'usage juif, pour continuer dans la joie festive jusqu'à la Pentecôte. Mais l'importance prise par les fêtes de Noël et de l'Épiphanie a fini par créer une sorte de second centre, comme une petite Pâque d'hiver. À l'imitation de la grande Pâque du printemps, on l'a fait précéder d'un temps particulier, l'Avent, et suivre d'un temps de joie, le temps de Noël. Mais à quelle attitude intérieure l'Avent nous invite-t-il? Un regard d'ensemble sur les lectures bibliques, choisies pour ce temps qui ouvre l'année liturgique, pourra nous en faire savourer quelques aspects et peut-être élargir nos horizons. Elles vont en effet nous proposer une sorte de parcours intérieur, de pédagogie spirituelle. 1. Temps du passé ou de l'avenir. On est tenté de penser et d'écrire, en portant attention à l'euphonie et non à l'étymologie, que c'est le temps avant, A-V-A-N-T, Noël. Et c'est un fait. L'Avent a progressivement emprunté divers éléments au carême, même sa durée et son nom pendant un temps, une quarantaine de la Saint-Martin, 11 novembre en Occident, ou de Saint-Philippe, 14 novembre en Orient. Dans l'Église latine romaine, cette durée s'est rétrécie à 4 dimanches. Ce temps prit aussi peu à peu le caractère pénitentiel du carême, sinon partout avec la pratique du jeûne, du moins avec les signes liturgiques que sont les ornements violets, la suppression du Gloria le dimanche, la simplification de la musique et des bouquets. Tout cela conduit à se représenter l'Avent comme un temps consacré à se souvenir de ce temps passé où les hommes attendaient le Sauveur dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Et l'on fait un peu de même avec eux, pas très réjouissant. Heureusement que les enfants amènent un peu de joie en attendant Noël. On se prépare donc à faire mémoire de la venue du Fils de Dieu dans notre chair, jadis. Pour cela, on se choisit quelques efforts pour bien se tenir afin d'avoir le cœur prêt pour les fêtes, ce qu'il est toujours bien de faire d'ailleurs. Mais on oublie le principal, ce à quoi font le plus allusion les lectures de l'Avent, la venue prochaine du Christ dans sa gloire. Depuis Saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, surtout, on a appris à envisager un triple avènement du Christ que l'abbé cistercien présente dans ses sermons pour ce temps. Le premier avènement est celui où il apparut sur terre et vécut parmi les hommes. Le troisième sera celui où il viendra en gloire et en majesté. Et le second avènement est entre les deux. C'est le moyen par lequel on passe du premier au troisième. La visitation du Christ dans notre aujourd'hui. Cette présentation a l'avantage de nous encourager à reconnaître le Christ présent dans notre quotidien. L'inconvénient pour bien vivre l'Avent est que cette perspective n'est peut-être finalement pas la plus importante à célébrer à ce moment. En effet, la présence du Christ est alors la continuation de sa venue dans la chair. L'entre-deux est un peu comme un passé qui reste présent. Mais la venue du Christ dans la chair doit-elle nous tourner vers le passé ou vers l'avenir? Si les chrétiens donnent trop facilement l'impression d'être établis, un peu passifs, ne serait-ce pas en partie parce qu'ils sont tournés plus vers le passé sur lequel se reposer que sur un futur à espérer, à désirer, à préparer, à hâter. Donner beaucoup de place à l'avènement passé du Fils de Dieu, continué dans ses visitations aujourd'hui, peut nous conduire à trop passer sous silence son dernier avènement, qu'il nous recommande instamment d'attendre, de guetter. Il est vrai qu'il est plus difficile à appréhender et peut-être fait un peu peur, mais il a déjà commencé. Au moment d'ouvrir les lectures bibliques de l'Avent, il convient de renverser les perspectives. Nous abordons le mystère de l'avènement du Seigneur, le temps de l'Adventus, équivalent latin du grec parousia, que l'on utilise plus volontiers pour désigner la fin des temps. Et les lectures évangéliques du premier dimanche de l'Avent, de l'année C, donnent le ton. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. C'est le jugement final. Ce temps liturgique s'ouvre donc non sur un passé qui est encore là, mais sur un futur qui est en quelque sorte déjà là. Le Christ en gloire est en train d'advenir. L'Écriture nous met en face de celui qui vient. Et à l'approche de l'avènement, l'Église nous exhorte à nous réveiller pour entendre les promesses et nous disposer à en accueillir la réalisation. De réveil. Le premier dimanche de l'Avent sonne comme un réveil matin à l'ancienne qui fait sursauter les dormeurs. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, s'exclame: Vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Et cette lumière qui se lève sera proclamée par Saint Jean à la messe du jour de Noël. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. La liturgie nous fait désirer et appeler ce lever de soleil avec l'antienne du Magnificat aux vêpres du 21 décembre, tissée de réminiscences bibliques. Ô soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Pas de mauvaise humeur, donc on réveille, c'est la joie. À l'approche de la lumière, l'humanité s'éveille dans la joie et non dans la peur du jugement. Ainsi, Paul, durant l'office des vêpres du premier dimanche et dans la seconde lecture du troisième dimanche de l'année C, nous dit: Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Isaïe, quant à lui, montre tout le monde qui se rassemble, attiré par la lumière. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Et tout le monde, c'est tout le monde, pas seulement le peuple choisi. En effet, c'est le jour annoncé par les prophètes, jour de salut et de rassemblement pour tous les hommes, les Juifs d'abord et les païens ensuite, selon la prophétie d'Isaïe. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Cette prophétie se trouve réalisée pour les Romains à qui Paul s'adresse dans la deuxième lecture du même dimanche. Je vous le déclare. Le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Dans l'allégresse de sa foi matinale, La première génération chrétienne entrevoyait comme proche l'avènement glorieux qui réalisera le royaume dans sa plénitude. Paul semble même avoir cédé à cette optique dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fut amené dans une seconde lettre à calmer l'impatience des fidèles, d'ailleurs par des considérations qui ne sont pas toutes très claires. Le fait est que personne ne sait quand le Christ reviendra. S'il convient de l'attendre sans fièvre inutile, la proximité de ce jour nécessite néanmoins d'être éveillé, prêt. Une des conditions intérieures est d'avoir les uns envers les autres la communauté de sentiments qui est l'esprit du Christ Jésus. Vivre déjà la grâce du rassemblement, c'est travailler à n'avoir qu'un seul cœur, qu'une seule voix pour glorifier le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que les disciples attendent et hâtent le jour de Dieu. Pierre ne parle pas autrement. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Les exhortations de l'apôtre se font présentes, car le temps est court. Il se fait tout simplement l'écho de Jésus, invitant à ne pas être amolli et endormi par une routine matérialiste qui fait oublier l'essentiel. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. La proximité du jour appelle à l'ascèse eschatologique. Il s'agit de fuir l'intempérance, l'ivresse, la luxure et l'impudicité, les disputes et jalousies, pour pratiquer sobriété, vigilance et justice. L'attitude profonde qui inspire ces conseils est sans ambiguïté. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il s'agit, en somme, d'user de ce monde qui passe avec discrétion, pour ne pas être alourdi non plus par les soucis de la vie. Car si, du côté de Dieu, l'avènement est accompli, notre façon de l'accueillir est encore imparfaite. Notre amour est trop partiel encore pour que l'éclair jaillisse de l'Orient à l'Occident. Aussi, l'essentiel est bien ce progrès dans la charité, qui est le leitmotiv sans cesse repris par l'apôtre dans d'autres passages de ses lettres, proches des textes qu'offre la liturgie. Il est temps de nous réveiller, de nous redresser pour témoigner de l'amour qui vient. Notre sommeil fait peut-être perdre de vue l'actualité et l'intensité de ces textes bibliques. La lourdeur du matérialisme consumériste atteint aussi les paupières de notre cœur. La lucidité sur notre monde est un commencement de réponse à l'appel de Dieu, à l'annonce du jour. Le thème du réveil doit saisir tout ce qui fait l'homme. Le chrétien est appelé à se laisser éveiller par le cri planétaire d'une humanité en souffrance, mais aussi tendue vers un mieux vivre. Si elle semble hésiter entre des espoirs démesurés en ses pouvoirs et un pessimisme radical, N'est-ce pas parce qu'elle n'entend pas les promesses de Dieu ?